Alors nous allons nous confier maintenant à la Vierge Marie. Nous venons de le faire. Nous le faisons avec l'aide du saint que nous honorons aujourd'hui, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, dont nous allons étudier quelques paroles dans une perspective plus propre au temps de l'Avent que nous vivons. On pourrait peut-être chanter la version française du Totus Tuus qui vient de Grignon de Montfort et qui avait été reprise par Jean-Paul II. Tout le monde connaît la mélodie. Je suis tout à toi, Marie Vierge Sainte. Je suis tout à toi, Marie Vierge Sainte. Tout ce que j'ai et tiens, Marie Vierge pure, sois mon guide en tout, Marie notre mère. Donc hier, avec les deux enseignements du Père Paul, nous avons été plongés dans la théologie, la doctrine et surtout la spiritualité donc de Saint Jean Eudes. Avec une densité très très forte, Saint Jean Eudes donc qui a été véritablement un chantre de cette union des deux cœurs, du cœur de Jésus et de Marie. Là nous changeons maintenant de siècle, à peu près, avec Saint Louis Grignon de Montfort. Je vais faire d'abord, dans un tout premier temps, un rappel biographique, pas détaillé, mais mettant simplement l'accent sur certains traits de sa vie et de son apostolat. Saint Louis Marie Grignon de Montfort, fondateur des Montfortins et des Filles de la Sagesse. Il est né en 1673, au moment des grandes apparitions ici à Paray-le-Monial. Il est mort en 1716. Il a été l'aîné de 18 enfants, fils d'un avocat breton, Louis, né à Montfort, près de Rennes. À 19 ans, Louis-Marie entre au séminaire de Saint-Sulpice de Paris. En 1700, il devient aumônier de l'hôpital de Poitiers. Il partage la table des pauvres malades et regroupe les jeunes filles désireuses de servir les pauvres. Parmi elles, celle qui va devenir très connue ensuite, Marie-Louise Trichet, fille d'un haut magistrat. Les réformes de Louis-Marie, parce qu'il va faire des réformes dans sa manière aussi de catéchiser et de conduire des missions, les réformes de Louis-Marie indisposent la bourgeoisie de la ville, qui le congédie de l'hôpital. Les missions attirent Louis-Marie. Il désire vraiment devenir missionnaire et c'est dans ce but-là qu'il se rend à Rome, pour demander au pape d'être envoyé au loin. Je ne sais pas comment le pape l'a reçu, si dans son fort interne il l'a pris au sérieux. Louis-Marie voulait être envoyé au loin et le pape l'envoie en mission, où ? En France, comme prédicateur des missions paroissiales. Là encore, il va déchaîner l'enthousiasme des uns, mais aussi la colère des autres. On entend dire parfois « Monsieur de Montfort est fou ». Il est entièrement voué à la Mère de Dieu. Il écrit dans un premier temps « L'amour de la sagesse éternelle » et surtout son œuvre la plus connue, « Le traité de la vraie dévotion à Marie ». Il entraîne des foules entières à Jésus par Marie. Alors il fait preuve de grande inventivité. Il va par exemple faire prier devant des tableaux du rosaire. Il va lui-même confectionner des tableaux. Il va composer des cantiques très populaires aussi. Vient le temps des fondations. Les jeunes filles de l'hôpital de Poitiers deviennent l'œuvre des filles de la sagesse. Il a aussi rêvé d'une petite compagnie de prêtres pour les missions populaires, qui était le principal de ses activités. Il aurait voulu les nommer les missionnaires de la Compagnie de Marie. Mais cette compagnie ne verra le jour qu'après la mort de Louis-Marie. Saint Louis-Marie est reconnu aujourd'hui comme fondateur de 3 congrégations religieuses, les Pères missionnaires Montfortin, appelés justement à l'origine Compagnie de Marie, les Filles de la Sagesse et les Frères de Saint Gabriel. Sa vie sur terre se termina à Saint-Laurent-sur-Sèvre, où il est très vénéré, et où à cause de lui, Jean-Paul II avait commencé son pèlerinage en 1996 précisément, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, avant de se rendre à Tours, Reims, Sainte-Anne-d'Auray. Il meurt en 1716. Donc pas très loin finalement des événements de Paray le Monial. Sa mort montre sa simplicité et surtout sa joie de vivre. Il communiquait la joie de la mission. En cela, il préfigurait un petit peu cette découverte de la louange qui serait le propre des communautés nouvelles et du renouveau suite au Concile Vatican II. Sa joie de vivre éclate au moment même où il meurt. En mourant, elle trouva la force de se redresser pour chanter un cantique de sa composition dont les paroles étaient les suivantes, très simples, très populaires. « Allons, mes bons amis, allons en paradis. Quoi qu'on gagne en ces lieux, ici sur terre donc, quoi qu'on gagne en ces lieux, le paradis vaut mieux. » Vous voyez, ce n'est pas très élaboré, mais c'est très beau, comme ça, c'est très simple. Puis ça rime. Allons, mes bons amis, allons en paradis. Quoi qu'on gagne en ces lieux, le paradis vaut mieux. Voilà ces paroles qu'il a chantées au moment même de mourir. Alors maintenant, après cette courte biographie, on se rappelle, je me propose 3 parties d'inégale longueur. Tout d'abord, un rappel de la substance même de ce qui fait l'originalité de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, sa vénération, sa dévotion à la Vierge Marie, dont il fait le chemin privilégié et essentiel pour arriver à Jésus. Donc je rappellerai d'abord, en quelques mots, peut-être juste à l'aide de 2 ou 3 phrases, en quoi cela consiste. Et qui a donné lieu à sa fameuse consécration à Marie, qui est en fait consécration à Jésus par les mains de Marie, dont nous ne connaissons, ceux qui connaissent ici bien à Paray le Monial, dont nous ne connaissons que la version brève, que vous trouvez d'ailleurs, vous pouvez même l'avoir sous les yeux, à la page 59 dans les livrets de chants. Nous n'allons pas la dire aujourd'hui, mais ce sera bien de l'avoir peut-être sous les yeux à un moment donné. Saint Louis-Marie innove dans sa catéchèse et dans ses missions. Il introduit la dimension du don de soi-même au Christ par les mains de Marie. Mais il fait cela dans la cérémonie du renouvellement des vœux du baptême. Ça aussi, ça a été une de ses grandes trouvailles, originalité, de faire une sorte de petite cérémonie du renouvellement des vœux du baptême à chaque mission paroissiale, dans les campagnes ou dans la catéchèse. Et c'est ça qui est essentiel, faire prendre conscience aux chrétiens des promesses qui ont été prononcées au moment du baptême, soit par le baptisé lui-même s'il était adulte, ou en tout cas en âge de raison, soit prononcées par les parrains et marraines. Le renouvellement des vœux du baptême que nous connaissons maintenant, que nous faisons surtout une fois par an, au moment de la vigile pascale, mais aussi à d'autres moments aussi. Mais ça, c'était très nouveau dans la manière de mener les missions. Et c'est à l'intérieur de ce renouvellement des vœux du baptême, alors, qu'il met l'accent sur ce don de soi-même au Christ par les mains de Marie, comme étant une extension, une intensification, finalement, de ce que nous avons reçu au baptême. Marie est le meilleur chemin pour se donner à Jésus, dans ce don de soi-même au Christ. C'est ce qu'il va prêcher infatigablement. Alors il va prendre des images. Les deux plus populaires sont celles-ci. L'exemple du paysan qui veut donner une pomme à son roi. Mais pour être sûr que la pomme arrive à destination, il la donne à la reine, pour que la reine lui-même, elle-même, pardon, donne la pomme au roi. Et puis l'autre image, qui est plus connue, il dit qu'il y a deux manières d'être conformé à Jésus, parce que toute notre vie de baptisé consiste à être de plus en plus configuré au Christ, à laisser le Christ être formé en nous. Donc il y a deux manières d'être conformé à Jésus. La manière rude, on sculpte l'image de Jésus en nous, on sculpte la pierre à coups de burin et on dégage la forme. C'est douloureux. Et un seul mauvais coup, un peu raté, peut tout abîmer. La deuxième manière, qui est évidemment la bonne, on entre dans le sein de Marie, dans ce sein de Marie qui a formé Jésus. Alors, dit-il, c'est comme entrer dans un moule. On prend la forme de Jésus, c'est très simple, se laisser faire par Marie. Saint Louis-Marie est l'auteur de plusieurs traités sur la Vierge Marie et qui vont peu à peu avoir une grande influence dans l'Église. Le plus connu, le traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie, mais il y a aussi le secret de Marie, qui est une mine de contemplation où on puise vraiment dans le trésor de cette dévotion mariale. Mais attention, toujours pour accéder plus facilement à Jésus. Alors ce livre, Le secret de Marie, qu'est-ce que c'est le secret de Marie? En fait, selon un commentateur que je cite, c'est que Marie, d'abord, elle-même, est le secret de Dieu. C'est-à-dire que dans le secret de ses desseins éternels, Dieu, Trinité, a formé la Vierge Marie comme chemin pour venir jusqu'à nous. Donc Marie, c'est d'abord le secret de Dieu, caché depuis les siècles et seulement révélé au dernier temps. Quand vint la plénitude des temps, dit saint Paul dans l'Épître aux Galates, Dieu envoya son fils né d'une femme. Et cette femme, c'est la Vierge Marie. Donc le secret de Marie, c'est d'abord le secret de Dieu. Et là, maintenant, j'aborde les deux points suivants dans la perspective du temps de l'Avent. Je rappelle que le temps de l'Avent est ce temps où nous faisons mémoire, tout en l'actualisant, de la première venue du Christ en ce monde à Noël, il y a 2000 ans. C'est plus qu'un souvenir, c'est une vraie actualisation. Nous chanterons à Noël, aujourd'hui, l'enfant est né, un fils nous a été donné, aujourd'hui. Donc ça, c'est la première dimension de l'Avent, accueillir dans l'actualité de notre aujourd'hui l'événement qui s'est passé il y a 2000 ans, mais dont le rayonnement perdure pour toujours. La deuxième dimension de l'Avent, comme vous le savez, c'est de préparer dans la vigilance et dans la prière la deuxième venue du Christ, qui n'est pas encore advenue du coup, et qui doit venir dans la gloire, et signer ainsi la fin de l'histoire, la fin du temps, l'inauguration du monde à venir. Par rapport à la première dimension, Dieu qui vient à nous, sous la forme de ce petit enfant qui va naître à Bethléem, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous enseigne que Marie est le chemin que Dieu lui-même a utilisé pour venir parmi nous, afin de nous sauver. Il n'y a pas d'autre chemin qu'il a pris. Il a pris le chemin de Marie. Il plaît donc à Dieu que nous empruntions ce même chemin, dans l'autre sens maintenant, pour aller à lui. Il est venu à nous, nous allons à lui, et ça ne peut se passer que par Marie. Il écrit, c'est un chemin aisé. C'est un chemin que Jésus-Christ lui-même a frayé en venant à nous. Et où il n'y a aucun obstacle pour arriver à lui. De même qu'en Marie, il n'y a eu aucun obstacle pour l'incarnation, dans la limpidité de son oui, de sa pureté immaculée, de son humilité. De même, si nous on décide d'entrer en quelque sorte dans le cœur immaculé de Marie ou en son sein, comme dit Saint Louis-Marie, il n'y a pas d'obstacle pour arriver à lui, à Jésus. Alors là, elle va de nouveau dire qu'il y a plusieurs voies, effectivement. On n'est pas obligé de passer par Marie. Alors je vais vous lire cette description qu'il fait. Vous verrez qu'il y a des choses qui sont... Il a pourtant vécu dans ce... jusqu'en 1716, donc 18e siècle, début du 18e siècle. C'est encore en matière artistique l'époque classique. Mais quand Saint-Louis-Marie parle, parfois, il y a des descriptions qu'il fait, on est en plein romantisme déjà. Alors voilà ce qu'il dit. On peut, à la vérité, dit-il, arriver à l'union divine par d'autres chemins. Mais ce sera par beaucoup plus de croix, des morts étranges, avec beaucoup plus de difficultés, et que nous pourrons vaincre que très difficilement. Alors voilà la description. Il faudra passer par des nuits obscures, par des combats et des agonies étranges, par des montagnes escarpées, par des épines très piquantes et des déserts affreux. Est-ce que ça nous donne envie, ce chemin ? Mais par le chemin de Marie, on passe plus doucement et plus tranquillement. C'est un passage du traité de la vraie dévotion. Donc voilà, essentiellement, en ce temps de l'Avent, contemplons le Verbe divin éternel qui est venu à nous en passant par Marie. On pourrait le dire même encore différemment, le Père a livré son Fils en passant par Marie. En fait, il a confié son Fils à Marie. C'est elle qui l'a reçu dans la fragilité de son humanité. Le Père a fait une totale confiance à Marie. Il lui a confié son bien le plus grand. Alors on comprend mieux le sens de la consécration à Jésus par les mains de Marie. De même que Jésus a voulu être radicalement dépendant de sa mère au début de sa vie, totalement dépendant dans son humanité, puis de nouveau à la fin, lorsqu'à la descente de croix, il repose de nouveau dans les bras de sa mère, et bien de même, nous, dans notre consécration à Jésus par les mains de Marie, nous prenons la place du Christ enfant ou du Christ descendant de la croix. C'est-à-dire totalement impuissant par nous-mêmes d'assurer notre salut, impuissant de parvenir à la sainteté, radicalement dépendant de la prière, de la tendresse de Marie, et bien sûr de la tendresse du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais qui passe par ce chemin royal qu'ils ont eux-mêmes choisi et préparé de toute éternité, qui est la Vierge Marie. Maintenant, nous allons aborder un peu plus longuement et de façon plus développée le deuxième aspect de l'Avent, à l'aide de Saint Louis-Marie. La fin des temps. Parce que c'est là où, avec des paroles extrêmement véhémentes, très inspirées, très romantiques finalement, il va décrire ce qu'est la fin des temps et l'urgence qu'il y a à les vivre entièrement en et par Marie. Alors tout d'abord, je vais lire un petit extrait du Secret de Marie par rapport à la venue en gloire de notre Seigneur dans cette perspective et l'importance donc de la médiation de Marie. Comme c'est par Marie que Dieu est venu au monde pour la première fois, donc Noël, dans l'humiliation et l'anéantissement, ne pourrait-on pas dire aussi que c'est par Marie que Dieu viendra une seconde fois, comme toute l'Église l'attend, pour régner partout et pour juger les vivants et les morts. L'on doit croire encore que sur la fin des temps, et peut-être plus tôt qu'on ne pense, Dieu suscitera de grands hommes remplis du Saint-Esprit et de l'Esprit de Marie, par lesquels cette divine souveraine fera de grandes merveilles dans le monde pour détruire le péché et établir le règne de Jésus-Christ, son Fils. Le règne de Jésus-Christ, son Fils, sur le règne du monde corrompu. Et c'est par le moyen de cette dévotion à la très sainte Vierge que ces saints personnages, donc ces apôtres des derniers temps, viendront à bout de tout. Alors là, il est très visionnaire. Nous allons un petit peu nous attarder et surtout développer ce qu'il dit aussi dans le Secret de Marie. Pour Saint Louis-Marie, la Vierge Marie était en quelque sorte sa mère, sa maîtresse, son icône intérieure. Icône intérieure. Et c'est Jésus qu'il trouve en elle. Alors déjà, dans un premier ouvrage qu'il avait écrit, il dit, c'est dans le Secret de Marie, « Marie est mon arche d'alliance. » Cette invocation-là est très biblique. Elle rappelle l'arche d'alliance que Moïse avait fait construire sur les instructions de Dieu dans le désert. On lit la description de l'arche d'alliance dans le livre de l'Exode. Et l'arche d'alliance a accompagné le peuple dans sa grande pérégrination de 40 ans au désert. Avec l'Arche d'Alliance, on vénérait la présence de Dieu parmi son peuple. Dans l'Arche d'Alliance, il y avait les tables de la loi que Dieu avait données à Moïse au sommet du mont Sinaï. Il y avait aussi le rameau de Aaron et puis un tout petit peu de la manne, de ce pain dont le peuple se nourrissait au désert, comme témoignage de la proximité de Dieu avec son peuple. Donc l'Arche d'Alliance qui accompagnait partout le peuple et qui était le signe de la présence de Dieu. Alors ce titre a été ensuite donné à la Vierge Marie, bien avant que Saint Louis-Marie lui donne ce titre, et cela dès l'Apocalypse, de façon un peu énigmatique. Au chapitre 11 de l'Apocalypse, à la fin du chapitre 11, le voyant de l'Apocalypse dit « Je vis le ciel s'ouvrir et le temple de Dieu s'ouvrir et son arche d'alliance au milieu du temple, son arche d'alliance. » Alors sur le moment, on se dit « Bon. » Et puis tout de suite après commence le chapitre 12. « Un signe grandiose apparut au ciel, une femme. » revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, couronnée de 12 étoiles. C'est la Vierge Marie. Et donc l'Arche d'Alliance, par toute la tradition de l'Église, dans les litanies de la Sainte Vierge, ou dans l'hymne acatiste, partout, Marie est décrite comme la nouvelle Arche d'Alliance, celle qui porte Dieu d'une façon suréminente, la présence de Dieu. Donc elle est mon Arche d'Alliance, où je trouve la sainteté. Elle est mon divin oratoire, où je trouve toujours Jésus. Ça, c'est très beau, la Vierge Marie comme oratoire. Elle porte Jésus, elle est comme une sorte d'ostensoir vivant, permanent. D'ailleurs, Jean-Paul II parle de Marie, surtout de Marie dans cette période où elle est enceinte, comme le premier tabernacle vivant de l'histoire. Il dit cela dans son encyclique sur l'Eucharistie, le long chapitre consacré à la Vierge Marie. Donc, elle est mon divin oratoire où je trouve toujours Jésus. Et, nous dit Saint Louis-Marie, dans le secret de Marie, j'y prie avec beaucoup de gloire. Il faut signaler une date, 1699, où Saint Louis-Marie fit à pied, au nom du séminaire, le pèlerinage à Notre-Dame de Chartres, à pied. Il fut chargé de la bibliothèque du séminaire. Il découvrit un petit psautier de la Vierge dans lequel il lut la formule qu'il citera souvent, au point qu'il la fera sienne complètement. « Totus tuus », c'est-à-dire « Je suis tout à toi, Marie. Tout ce que j'ai est tien. Sois mon guide en tout. » Le « Totus tuus » qui sera ensuite la devise de Jean-Paul II, qui lui-même, mais ça j'en parlerai cet après-midi, en introduction de mon enseignement plutôt sur Jean-Paul II, il a découvert Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort comme jeune adulte et qui a totalement transformé sa dévotion mariale. Saint-Louis-Marie donc aimait beaucoup cette devise « Totus tuus » et aussi cette citation du cardinal de Bérulle de l'École française de spiritualité. Le cardinal de Bérulle dit « Nous sommes obligés d'être esclaves de Jésus et de Marie par naissance et par renaissance, c'est-à-dire par le baptême. Cette servitude découle du vœu même du baptême. » Et cette dimension du Saint-esclavage, Saint Louis-Marie va le développer. Alors, il est vrai que c'est difficile à entendre à notre époque. On n'aime pas beaucoup ça, les chaînes, l'esclavage, etc. Mais il faut profondément comprendre la portée théologique que cela comporte. En fait, nous avons été esclaves du démon et du péché. Nous naissons esclaves en venant en ce monde. Nous sommes marqués par la malédiction du péché. Donc nous sommes totalement captifs, esclaves. Et le changement d'esclavage signe notre plus grande liberté. Nous acceptons de n'être plus esclaves du démon qui nous a servi, comme tout tyran, comme le tyran par excellence qu'il est lui-même. Et nous acceptons l'esclavage extrêmement doux, humble, de Jésus et de Marie. Jésus s'est fait serviteur, il n'est pas venu pour être servi, il le dit, mais pour servir et donner sa vie. Et la Vierge Marie, qui est la servante du Seigneur, et cette humilité et ce service va faire d'elle la reine. Donc c'est un esclavage qui nous fait roi, qui nous donne de régner avec le Christ. Le saint esclavage dont parle Saint Louis-Marie n'est pas à entendre comme quelque chose d'un peu morbide, d'un peu masochiste ou autre. C'est le seul esclavage, on a pu le dire dans la tradition de l'Église, c'est le seul esclavage qui nous rende pleinement libres et maîtres, finalement, de nous-mêmes. D'ailleurs, Saint Paul le dira, tout est à vous, tout est à vous. l'avenir, le présent, le passé, tout est à vous. Mais vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Et Dieu, lui, est la source permanente de notre véritable libération et liberté. Donc Bérulle, en disant « Nous sommes obligés d'être esclaves de Jésus et de Marie », dit « Ça découle du baptême. On change de règne. On était esclave des ténèbres. On devient esclave, un doux esclavage libérateur de la lumière. » Alors ensuite, il reprend, ou plutôt moi je reprends maintenant dans le secret de Marie, sa grande vision sur la fin des temps. Parce que c'est là aussi où il chante avec le plus d'intensité la gloire en quelque sorte de Marie. Il parle de ses apôtres, de la fin des temps, qu'il voit vraiment comme des sortes de géants de la spiritualité. Ce seront ses apôtres comme un feu brûlant, comme des flèches aiguës dans la main de la puissante Marie. Puissante parce que humble et servante. Alors voilà son côté un peu romantique ou pré-romantique. Les apôtres, ce seront des nues, les nuées, des nues tonnantes et volantes par les airs au moindre souffle du Saint-Esprit, qui, sans s'attacher à rien, ni s'étonner de rien, ni se mettre en peine de rien, répandront la pluie de la parole de Dieu et de la vie éternelle. Ce seront des apôtres véritables des derniers temps, à qui le Seigneur des vertus donnera la parole et la force pour opérer des merveilles. Et nous savons que ce seront de vrais disciples de Jésus-Christ, qui, marchant sur les traces de sa pauvreté, humilité, mépris du monde et charité, enseignant la voie étroite de Dieu, porteront sur leurs épaules l'étendard de la croix, le crucifix dans la main droite, le chapelet dans la main gauche. C'est très imagé, hein ? Le crucifix dans la main droite, le chapelet dans la main gauche. Les sacrés noms de Jésus et de Marie sur leur cœur. La modestie et la mortification de Jésus-Christ sur leur cœur, dans toute leur conduite. Voilà les grands hommes qui viendront. Mais quand et comment cela se fera-t-il? Dieu seul le sait. Donc, pas d'illuminisme ou de fascination par rapport à ce qui concerne la fin des temps. Chaque fois que l'homme a essayé de sonder, ça a été l'échec total. Je ne sais pas combien de milliers de fins du monde il y a eu déjà, annoncées en tout cas, et on est encore là. Donc, Dieu seul le sait. On peut dire qu'il y a des indices. Le pape Jean-Paul II était sans aucun conteste un de ces apôtres-là. Vers la fin du monde, les plus grands saints, les âmes les plus riches en grâce et en vertu, seront les plus assidus à prier la très sainte Vierge et à la voir toujours présente comme leur parfait modèle à imiter et leur aide puissante pour les secourir. J'ai dit que cela arriverait particulièrement à la fin du monde et bientôt, parce que le Très-Haut avec sa Sainte Mère doivent se former de grands saints qui surpasseront autant en sainteté la plupart des autres saints. Alors Saint Louis-Marie n'hésite pas à dire que ces nouveaux saints dépasseront les autres saints que nous connaissons déjà, comme les cèdres du Liban surpassent les abrisseaux. Ça fait quand même un petit peu peur, hein ? On se dit déjà que nous, on n'est pas très brillants, qu'on voit tous les saints qui nous ont précédés, les martyrs, les confesseurs de la foi, les saints comme, voilà, les docteurs, les serviteurs, etc. Alors on s'est dit que même si eux doivent être dépassés, voilà, on a du mal à s'imaginer qu'on sera parmi ces très grands saints de la fin des temps. Mais il faut se confier surtout à la Vierge Marie. Ces âmes pleines de grâce et de zèle seront choisies pour s'opposer aux ennemis de Dieu, qui effectivement frémiront de tous côtés. Ces ennemis de Dieu, évidemment, ils frémiront de tous côtés. Plus la fin approche, plus ils vont s'exténuer dans l'agitation. Il suffit de lire l'Apocalypse. C'est vraiment ce qui se passe. Et ces âmes seront singulièrement dévotes à la Sainte Vierge, éclairées par sa lumière, nourries de son lait et conduites par son esprit. C'est par Marie que le salut du monde a commencé, et c'est par Marie qu'il doit être consommé. Dieu veut donc révéler et découvrir Marie, le chef-d'œuvre de ses mains, dans ces derniers temps. Marie est très humble. Et voilà qu'il va chanter un peu les gloires de Marie. Elle est l'aurore qui précède et découvre le soleil de justice qui est Jésus-Christ. Les paroles de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort sont pétries de l'Écriture. Le soleil de justice qui est Jésus-Christ font référence ici à un prophète de l'Ancien Testament, Malachie, chapitre 3, où il n'est pas encore question de Jésus, bien sûr, on est encore dans l'Ancien Testament, où Dieu parle par l'intermédiaire du prophète à son peuple et dit « Pour vous qui craignez mon nom, donc pour les saints, pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice brillera avec la guérison dans ses rayons. » Et alors, cela accentue notre propos. Sainte Marguerite Marie relate que dans la grande vision qu'elle a eue, le 2 juillet 1688, 2 ans avant sa mort, le jour où on fête la visitation, à l'époque c'était le 2 juillet, la Vierge Marie lui apparaît, tout proche du trône où Jésus est là, avec son cœur embrasé et les flammes qui jaillissent du trône. Et la Vierge Marie montre le cœur de son divin fils à Marguerite Marie en disant « Voilà le soleil de justice ». Donc c'est elle-même qui fait référence à ce passage de Malachie. « Le cœur de mon divin fils, soleil de justice ». Donc avec la guérison dans ses rayons. Et c'est elle qui nous le découvre, et c'est donc elle qui l'a découvert à Marguerite Marie en ce fameux 2 juillet 1688. Marie étant la voie par laquelle Jésus-Christ est venu à nous la première fois, elle le sera encore lorsqu'il viendra la seconde, celui qui trouvera Marie trouvera la vie, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est lui-même la voie, la vérité, la vie. En conséquence, Marie doit éclater plus que jamais en miséricorde, en force et en grâce, toujours dans ces derniers temps. Je vous rappelle que je me situe dans la deuxième dimension de l'Avent, où nous attendons la venue du Seigneur dans la gloire. Alors là, c'est très intéressant ça. Marie doit être terrible aux démons et à ses suppôts, comme une armée rangée en bataille. Là, Saint Louis-Marie fait référence à un passage du Cantique des Cantiques où on dit que la bien-aimée monte du désert, appuyée sur son bien-aimé, comme une armée rangée en bataille. Ce verset très prophétique du Cantique des Cantiques annonce la femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, couronnée de 12 étoiles, et qui va être victorieuse du dragon, qui va être jeté sur la terre et qui ne va plus avoir aucune emprise sur la femme. Alors furieux, il va se tourner dans l'Apocalypse, là, vers le reste de ses enfants et les combattre, et ça jusqu'à la fin des temps. Donc, elle est comme une armée rangée en bataille contre le démon. Alors ceux et celles d'entre vous qui connaissent la très belle prière Notre-Dame des Anges ou Notre-Dame du Refuge voient de quoi il s'agit. Marie donne des ordres à l'archange Saint-Michel et aux anges de refouler les démons qui causent des ravages indescriptibles dans le monde et dans l'histoire. Marie doit éclater plus que jamais en miséricorde, en force et en grâce dans ces derniers temps. Dans les derniers temps, Satan va susciter de cruelles persécutions. Il mettra de terribles embûches aux serviteurs fidèles et aux vrais enfants de Marie. C'est principalement de ces dernières et cruelles persécutions qui augmenteront jusqu'au règne très provisoire, rassurez-vous, de l'Antéchrist, qui doit régner pendant un moment, mais qui sera ensuite anéanti par le souffle de la bouche du Seigneur, selon l'Épître aux Thessaloniciens. Donc, ces persécutions augmenteront, qu'on doit entendre cette prédiction de Dieu portée dès les origines à propos du serpent, dans le troisième chapitre de la Genèse. Il parle au serpent, il dit « Je mettrai entre toi et la femme une inimitié, une hostilité entre son lignage et le tien. Sa descendance t'écrasera la tête et toi tu l'atteindras au talon. » Alors oui, on sait que la descendance, c'est Jésus qui a écrasé le démon et en passant par Marie, par l'humilité de Marie, Marie a vaincu les causes du péché originel, où nos premiers parents ont cédé au serpent, justement, au dragon. Mais il y a quand même cette phrase, sa descendance t'écrasera la tête, mais toi tu l'atteindras au talon. Ça veut dire qu'il y a un dur combat quand même qui se passe. Il traduit ainsi, je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, et ta race et la sienne. Elle-même t'écrasera la tête et tu mettras des embûches à son talon. Alors ça, c'est très intéressant. C'est court comme phrase, mais c'est complètement éclairant. L'humilité de Marie humilie Satan plus que le pouvoir divin. C'est étonnant ça, et c'est tellement juste. Même dans sa folie, dans sa perversité, dans sa négation absolue, Satan ne peut pas nier ce fait-là. Dieu est quand même plus fort que lui. Il voit bien qu'il ne peut agir que dans la mesure où Dieu le permet. Et Dieu l'enchaîne. Et à la fin, Satan sait très bien, l'Apocalypse le dit, il est descendu sur terre frémissant de colère, sachant que ses jours sont comptés. Donc la victoire est acquise à Dieu. Et ça, il le sait. Alors, il n'aime pas ça, mais il le sait. Il est obligé de reconnaître que Dieu est Dieu. Il est trop intelligent pour ne pas comprendre cela. Mais ce qui le confond complètement et qui le remplit d'une sorte de terreur intérieure, c'est l'humilité de Marie, parce que lui, dans son orgueil, était persuadé qu'il avait entraîné toute la race humaine dans sa négation de Dieu et dans son orgueil. Vous serez comme des dieux. Il ne peut pas supporter l'humilité de cette pauvre petite fille de Nazareth, un rien auquel il ne se serait peut-être jamais intéressé. Elle n'était pas assez spectaculaire pour lui. C'est un fait, une fois j'ai entendu un commentaire qui est quand même très intéressant. Satan ne peut s'intéresser qu'à ce qui fait du bruit, à ce qui veut s'élever vers Dieu. Alors dès qu'il y a quelque chose d'un peu spectaculaire, il est sur le qui-vive. Ça commence avec le baptême de Jésus. Il entend dire peut-être, le ciel s'est ouvert et la voix du Père s'est fait entendre. Voici mon fils bien-aimé. Alors il commence à s'inquiéter, il va rôder autour de Jésus en essayant de percer le secret. Au moment des tentations dans le désert, si tu es le Fils de Dieu, voilà. Mais auparavant, il ne pouvait pas s'intéresser à cette pauvre petite fille de Nazareth. beaucoup trop humble pour l'intéresser. Elle est dans le silence, elle ne fait pas de bruit. Ça, c'est la ruse de Dieu, le secret de Dieu, justement. Il est venu en contournant l'orgueil de Satan et en passant par l'humilité de sa servante. Et donc ça, ça le confond complètement. Dans son vocabulaire à lui, Pierre Goursat, le fondateur de la communauté, qui était très pétri aussi de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, dit, alors il avait une manière de parler très populaire, il disait, alors le démon a une frousse épouvantable devant la Vierge Marie et dès qu'il la voit ou qu'il entend parler d'elle, il fuit. Parce que ça, il ne peut pas supporter cette blessure-là. L'humilité d'une pauvre créature humaine par laquelle il est vaincu. Et de fait, théologiquement, ça c'est Saint-Louis-Marie qui le dit, donc je reprends cette phrase, « L'humilité de Marie humilie Satan plus que le pouvoir divin. Ce que Lucifer a perdu par orgueil, Marie l'a gagné par humilité. Lucifer nous a perdus par l'orgueil, et en attisant l'orgueil en nous, vous serez comme des dieux, Marie l'a gagné par l'humilité. » Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. La nouvelle Ève. Alors ça, c'est l'échec total de Satan. Il va vouer une haine éternelle à la Vierge Marie. Mais le pouvoir de Marie sur tous les diables éclatera particulièrement dans les derniers temps. Justement, et c'est là où la prophétie de Genèse 3 prend encore plus de valeur, dans ces derniers temps où Satan mettra des embûches à son talon, au talon de Marie, c'est-à-dire en fait à ses humbles esclaves, à ses pauvres enfants qu'elle suscitera pour lui faire la guerre. Ses esclaves, ses serviteurs, ses grands apôtres seront petits et pauvres, petit et pauvre selon le monde, et abaissé devant tous comme le talon, foulé et persécuté comme le talon l'est à l'égard des autres membres du corps. Mais en échange, ils seront riches en grâce de Dieu, que Marie leur distribuera abondamment. Et nous savons très bien que la victoire finale reviendra à notre Dieu, comme le chante l'Apocalypse. Cieux, soyez dans la joie, désormais la victoire est acquise à Dieu et à son Christ. Il est vaincu l'accusateur de nos frères. Voilà. Mais alors attention, l'Apocalypse dit bien qu'il est vaincu. Bien sûr qu'il est vaincu par le pouvoir divin. Mais il est vaincu surtout par nos frères, les martyrs, qui ont méprisé leur vie jusqu'à en mourir. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau qu'ils ont versé eux-mêmes. Voilà les apôtres des derniers temps aussi. Il y aura des martyrs. Ces apôtres et ces disciples connaîtront les grandeurs de cette souveraine et ils se consacreront entièrement à son service comme des sujets et ses esclaves d'amour. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur l'esclavage. Nous sommes les esclaves d'un serviteur souffrant, les esclaves d'une servante du Seigneur, souffrant avec lui jusqu'au pied de la croix. Ils connaîtront les miséricordes dont Marie est pleine et les besoins où ils sont de son secours, et ils auront recours à elle en toutes choses comme à leur chère avocate et médiatrice auprès de Jésus-Christ. Ils sauront quel est le moyen le plus assuré, qu'elle, Marie, est le moyen le plus assuré, le plus aisé, le plus court et le plus parfait pour aller à Jésus-Christ. Alors Saint-Louis-Marie va s'extasier maintenant sur la bonté du Père, le Père Tout-Puissant, qui se montre aussi infiniment condescendant, condescendant ici dans le sens positif, dans le sens premier du terme, c'est-à-dire qui descend à notre niveau. C'est ça la vraie condescendance. Ce n'est pas l'aspect un peu méprisant. Il est condescendant, il descend, comme dès le livre de l'Exode, dans l'épisode du buisson ardent, j'ai vu, j'ai entendu la détresse de mon peuple, je suis descendu pour le visiter. Donc voilà. Alors, le Père Tout-Puissant se montre infiniment condescendant et même faible en Marie, parce qu'il livre son Fils, qui est tout lui-même, avec qui il partage tout, le Fils en tout égal au Père. Tous les attributs du Père appartiennent au Fils, comme à l'Esprit-Saint. Donc, il se fait condescendant et il se fait faible en Marie, car il contracte en elle la condition de pauvres esclaves qu'il a reçue d'elle et veut partager avec nous. En fait, que son Fils a reçu d'elle et qu'il partage maintenant avec nous. Rappelez-vous l'hymne, enfin, la fameuse hymne, les versets de l'Épître aux Philippiens. Lui, de condition divine, il parle de Jésus, n'a pas jugé bon de garder le privilège qu'il égalait à Dieu, il s'est anéanti lui-même prenant la condition d'esclave, devenant semblable à nous. Reconnu homme, il s'abaissa plus encore jusqu'à la mort et la mort de la croix. Un dépouillement. Ça ne veut pas dire qu'il ne cesse pas d'être Dieu. Bien sûr que non. Il ne cesse pas d'être divin. Il ne cesse pas d'être le Tout-Puissant. Mais il voile la gloire de sa divinité et de sa toute-puissance pour se faire faible à cause de nous et pour nous. Et ça, ça se passe par Marie. C'est le lieu, c'est un petit peu la plaque tournante de cette inouïe étape de l'incarnation, où Dieu se fait faible. Alors les pères de l'Église disent, déjà bien avant Louis-Marie Grignon de Montfort, bien sûr, ils parlent déjà de cet admirable échange que je viens d'évoquer. L'admirable échange par lequel Dieu se fait homme, pour que l'homme devienne Dieu en lui, bien sûr. Alors Louis-Marie ne craint pas d'écrire « Celui qui est incompréhensible s'est laissé comprendre et contenir parfaitement par la petite Marie, sans rien perdre de son immensité. L'inaccessible s'est approché, s'est uni, c'est uni étroitement, parfaitement et même personnellement à notre humanité par Marie. Celui qui est, qui était et qui vient, comme nous le disons, celui qui est, a voulu venir à ce qui n'est pas, c'est-à-dire nous, des pauvres, incapables d'existence et de salut sans Dieu. Bon, celui qui est a voulu venir à ce qui n'est pas et il l'a fait par Marie. Dans le second avènement de Jésus-Christ, que nous attendons, Marie doit être connue et révélée par le Saint-Esprit, afin de faire par elle connaître, aimer et servir Jésus-Christ. Elle sera, je le répète ici, elle sera comme l'aurore qui précède et découvre le soleil de justice, Jésus-Christ. Donc, vous voyez, c'est très intense, mais c'est tout à fait dans la lignée de ce qu'on a entendu hier avec saint Jean Eudes, qui est étonnamment prophétique. Saint Jean Eudes est précurseur d'une théologie telle que, je ne sais pas si le père Paul l'a dit, peut-être qu'il l'a dit, mais ça, je ne l'ai pas entendu, qu'il est question, il y en a qui militent pour que saint Jean Eudes soit déclaré docteur de l'Église, mais aussi saint Louis Grignon de Montfort aussi, justement, à cause de cette doctrine très prophétique par rapport à cette union du Christ et de Marie et de notre union au Christ par Marie. Au temps marqué par Dieu, la sagesse éternelle, qui est le Verbe de Dieu, se fit une demeure digne d'elle au temps marqué par Dieu, la sagesse éternelle se fit une demeure digne d'elle. Cette sagesse éternelle créa Marie. Que Saint Louis-Marie chante comme chef-d'œuvre du Très-Haut, miracle de la sagesse éternelle, prodige de la toute-puissance, abîme de la grâce. Tous ces attributs qu'on retrouve d'ailleurs de façon très convaincante dans l'hymne acathiste, cette grande hymne qui chante les grandeurs de Marie. Marie est si parfaite qu'elle ravit non seulement les anges, mais Dieu lui-même. Grignon de Montfort écrit ceci: son humilité profonde jusqu'au néant charma Dieu. Sa pureté toute divine l'attira. Sa foi vive et ses prières fréquentes et amoureuses le forcèrent d'une certaine façon. Son humilité profonde jusqu'au néant le charma. Là encore, on peut lire en filigrane le psaume 45, entre parenthèses 44, où le psalmiste dit, en parlant d'une reine, mais où la tradition chrétienne reconnaît une annonce de la Vierge Marie, « Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ta parenté, la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Prosterne-toi devant lui. » Le roi sera séduit par ta beauté. La tradition chrétienne applique cela à la Vierge Marie, choisie par Dieu. Et Dieu charmé par Marie. Alors il va plus loin. Ô qu'il fût grand l'amour de Marie qui a vaincu le Tout-Puissant. Il s'est laissé vaincre par l'amour de Marie. La sagesse, avec un grand S, la sagesse dépêcha à Marie l'archange Gabriel pour la saluer de sa part. L'archange gagne du cœur de Marie, malgré les résistances de son humilité profonde. Comment cela va-t-il se faire? Elle est toute troublée à cette salutation. L'archange gagne du cœur de Marie, malgré les résistances de son humilité profonde. Il gagne le consentement ineffable que la Sainte Trinité, avec tous les anges et tout l'univers, attendait depuis tant de siècles. Cette réponse qui n'a jamais pu venir de lèvres d'homme ou de femme blessé par le péché. Il fallait un être humble, immaculé, totalement accordé à Dieu pour donner cette réponse. Je suis la servante du Seigneur. La Trinité attendait cela depuis tant de siècles, en fait depuis le péché originel. Et donc, Marie prononce ce oui. Par rapport à ce que dit Saint Louis-Marie ici, alors celui qui le précède de bien des siècles, c'est Saint Bernard. Et c'est pendant le temps de l'Avent, pour ceux qui lisent le bréviaire dans l'office des lectures, le jour où on fait mémoire, c'est dans les derniers jours de l'Avent, dans ces fameuses grandes, entre le 17 et Noël, le 17 décembre et Noël, où on lira l'Annonciation. Et là, la lecture est admirable, c'est Saint Bernard qui s'adresse à la Vierge Marie. Et il supplie la Vierge Marie de donner son consentement. Il dit, ben voilà, l'ange attend ta réponse. C'est admirable comme texte, c'est pétri d'écriture. Et il dit, mais tout le monde attend ton oui. Il l'attend Abraham, ton ancêtre. Il l'attend Adam, avec sa malheureuse épouse, exilée, déportée, dans une terre désertique et aride. Il l'attend tous tes ancêtres de la première alliance. L'univers entier est à tes pieds. Il attend ce consentement. Donc voilà, c'est tout à fait dans la ligne de ce qu'écrira ensuite Saint-Louis-Marie. Et voilà, dit Saint-Louis-Marie, la grande merveille du ciel et de la terre, l'excès prodigieux de l'amour de Dieu, à savoir, le Verbe s'est fait chair. La sagesse éternelle s'est incarnée grâce au oui de Marie, au fiat de Marie. Dieu est devenu homme sans cesser d'être Dieu. Cet homme s'appelle Jésus-Christ, c'est-à-dire sauveur. En quoi consiste la vraie dévotion à Marie, selon saint Louis-Marie Grignon de Montfort, selon son traité de l'amour, de la sagesse éternelle aussi, un de ses premiers ouvrages? Elle consiste, cette dévotion, dans une grande estime de ses grandeurs, une grande reconnaissance pour ses bienfaits, un grand zèle pour sa gloire, une invocation continuelle de son secours et une dépendance totale de son autorité et un ferme appui et une confiance tendre en sa bonté maternelle. Alors, il va dire, il ne faut pas être du nombre des dévots critiques et scrupuleux qui craignent de rendre trop d'honneur à la Sainte Vierge et ainsi de déshonorer le Fils en honorant la Mère. Bien sûr que non, nous l'avons compris. Le Concile Vatican II a beaucoup mis l'accent là-dessus. Il n'y a qu'un seul médiateur. Il n'y a pas d'autre médiation. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le Christ Jésus. Il est la source et l'achèvement de toute médiation. Il n'y a pas de médiation concurrente. Cependant, sa médiation peut rayonner sur la terre par divers moyens, par divers chemins. Comme la lumière du soleil passe par des réalités. Ce serait pas très... D'abord, nous ne le pouvons pas. Nos yeux ne supportent pas la lumière du soleil. On ne peut pas le regarder en face. Mais même à supposer, qu'est-ce qui rend le soleil beau et désirable? C'est tout ce qui l'éclaire. Les paysages, les vitraux dans une église, les sommets des montagnes, le scintillement de l'océan, les fleurs qui sourient au soleil, etc. C'est ça, le soleil, comme ça, à l'état brut, on ne pourrait même pas le recevoir. On a accès à ce soleil par une multitude immense de médiations, dont une d'ailleurs qui est privilégiée comme symbole de Marie, c'est la lune déjà, pour commencer. La lune ne donne pas sa lumière par elle-même. La lune, c'est la lumière du soleil sur notre satellite. Et c'est très symbolique parce que dans la nuit de ce monde, la Vierge Marie brille parce qu'elle attire à elle complètement la lumière du soleil de justice qui est son fils, justement. Donc il n'y a pas la dévotion à Marie bien comprise, selon Vatican II, qui a d'ailleurs voulu corriger certains excès, justement, parce qu'il y a eu des excès, qui frisaient même la superstition. Mais la vraie dévotion à Marie, selon Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, et puis selon Jean-Paul II, et selon le Concile Vatican II, ne porte absolument pas ombrage à l'unique médiation du Christ. Et parmi ces multiples médiations du Christ Sauveur, alors la Vierge Marie brille d'un éclat suréminent et absolument particulier, comme la lune dans la nuit, justement, dont on a absolument besoin pour s'éclairer la nuit. Donc c'est dans ce sens-là qu'il y a effectivement une participation à la médiation du Christ qui est suréminente sur Marie. Mais elle n'est pas médiatrice avec Jésus. Elle reflète sa médiation de façon absolue et parfaite et immaculée. Et c'est ce chemin que nous prenons. De même que dans la nuit, on marche au clair de lune. Donc, il ne faut pas être du nombre des dévots critiques et scrupuleux qui craignent de rendre trop d'honneur à la Sainte Vierge et de déshonorer le Fils en honorant la Mère. La plus parfaite et la plus utile de toutes les dévotions à la Sainte Vierge, c'est de se consacrer tout à elle, et tout à Jésus par elle. En faisant une consécration entière et éternelle de notre corps, de notre âme, de nos biens intérieurs et extérieurs, mais aussi des satisfactions et des mérites de ses bonnes actions. Là, on retrouve le texte de la consécration que vous pourrez lire peut-être dans la journée, pas forcément en faisant cette consécration pour l'instant, mais lisez-le d'abord comme un document à lire, quelque chose à connaître. Donc, je vous ai dit, je crois que c'est page 59, vous le trouverez, consécration à Marie. Donc, la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, même cela, je le remets à Marie. Et tous les biens qu'on a reçus par le passé, qu'on possède à présent et qu'on possédera à l'avenir, jusqu'à notre éternité, on le remet dans les mains de Marie. Il faut tout mettre entre les mains de Marie, tout ce que nous possédons, et surtout remettre entre les mains de Marie le trésor même des trésors, c'est-à-dire Jésus-Christ, afin qu'elle nous le garde. Elle est la gardienne des grâces reçues et de la présence de Jésus en nous. Elle qui, justement, par deux fois, est célébrée par l'Écriture dans l'Évangile de Luc comme celle qui conservait soigneusement et gardait tout dans son cœur, méditant tous ces événements et toutes ces paroles. Elle garde tout. Elle est la gardienne. Donc il faut tout mettre dans les mains de Marie et ce trésor même qui est Jésus-Christ, afin qu'elle nous le garde. Alors parfois, en récitant cette consécration, on se sent d'abord très pauvre et pas toujours capable de dire mes biens intérieurs et extérieurs et je te donne tout, sans exception. Inévitablement, il y a des jours où ça grince un peu. Vous êtes d'accord? Il faut le faire quand même. La Vierge Marie est mère et les mères savent très bien que parfois les petits-enfants font des promesses qu'ils ne seront pas capables de tenir, mais elles prennent ces promesses au sérieux. Parce que ces promesses reflètent quelque chose, à ce moment-là, au temps présent, de ce que l'enfant ressent. Lorsqu'il promet de ne plus jamais faire de bêtises de toute sa vie, et qu'il a 4 ans, eh bien, la mère sait très bien que ça ne va pas être le cas. Et pourtant, elle prend au sérieux, elle va l'embrasser, va lui dire merci. C'est la même chose avec la Vierge Marie. Et c'est très bien qu'il y aura des jours où on va un petit peu retirer ce qu'on a donné. Alors là, c'est très personnel ce que je vais vous dire. J'aime beaucoup cette consécration et quand je la dis seule, parfois, après les paroles « Je te livre et consacre en toute soumission et amour, mon corps, mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures », et là, je fais un silence, parfois. Et dans mon cœur, je ne le dis pas à haute voix, je confie aussi à Marie justement toute cette part encore en moi qui n'est pas convertie, tous ces abîmes encore d'obscurité, d'égoïsme, d'obstacles, de ténèbres, d'infidélité, d'incapacité à progresser, de résistance à la grâce. Il y a tout ça, il y a un abîme en nous, il y a un abîme négatif en nous aussi. Hein, la fameuse prière que certains ont connue, enfin, il y a 40 ans, aime-moi tel que tu es, Jésus dit à l'âme, aime-moi donc tel que tu es, ne te préoccupe pas. Et puis il dit cette phrase qui est quand même redoutable, si tu connaissais vraiment ton indigence, si tu connaissais vraiment ton indigence, tu mourrais de douleur. Donc tourne-toi vers moi, qui ne suis que miséricorde et qui peu à peu va te faire grandir. Ben, c'est ça. Alors moi parfois je dis, ben voilà Marie, là je t'offre toute cette part que je ne contrôle pas ou que je n'arrive pas à lâcher, voilà. Et moi, ça me fait du bien. Je me dis qu'elle est comme elle est mère, elle est aussi médicinale. Elle est vraiment comme une divine infirmière qui va s'occuper de moi à ce moment-là. Mais ça, c'est très personnel, mais je le dis parce que je pense que ça peut faire beaucoup de bien. Donc, voilà. Mettons tout entre les mains de Marie. Elle est sage, elle est charitable, elle est libérale, elle est puissante, elle est fidèle. Voilà ce que dit encore Saint Louis-Marie. Elle est la Vierge fidèle à Dieu, elle est fidèle à Dieu, et fidèle aux hommes par excellence. Attachons-nous à elle comme à une colonne qu'on ne peut pas renverser, comme à une ancre qu'on ne peut pas détacher, ou plutôt, de nouveau l'Écriture, ou plutôt comme à la montagne de Sion qu'on ne peut pas ébranler. Hein ? On voit ça dans les psaumes. Inébranlable, la montagne de Sion, inébranlable. Alors, il termine avec cette prière qui sera la conclusion de cet enseignement. Je vous salue donc, ô Marie Immaculée, tabernacle vivant de la divinité, où la sagesse éternelle cachée veut être adorée des anges et des hommes. Je vous salue, ô reine du ciel et de la terre, à l'empire de qui tout est soumis, tout ce qui est au-dessous de Dieu. Je vous salue, ô refuge assuré des pécheurs, dont la miséricorde n'a manqué à personne. Exaucez les désirs que j'ai de la divine sagesse et recevez pour cela les vœux et les offres que ma bassesse vous présente. Amen. Voilà, nous restons en silence peut-être.